Salut tout le monde, à toutes et à tous. Donc, c'est les barricades mystérieuses, vous êtes sur RTF 95.4 et donc vous écoutez cette émission qui est consacrée à la littérature et à la musique classique. Alors, musique classique, comme d'habitude, assez variée et très classique aussi. Vivaldi, Bach, Haydn, Turina, un musicien espagnol pas très très connu. Et puis nos deux livres, alors c'est deux livres qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont très différents l'un de l'autre, donc un ouvrage qui s'appelle « Les perles de Michel Audiard », donc c'est assez amusant, je vous en lirai quelques-unes, et puis un livre de Alix Saint-André qui s'appelle « En avant-route », voilà, qui est le récit d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors pour commencer, eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter la version de Haydn, du Stabat Mater. Alors le Stabat Mater très connu, c'est une prière, Stabat Mater Dolorosa, ça décrit un peu la Vierge au pied de la croix. Voilà, et alors ça a été, enfin le plus connu, celui de Haydn n'est pas le plus connu, il y en a d'autres même plus connus que celui-là, en particulier celui de Pergolèse qui je crois est le plus célèbre universellement. Alors je vous propose d'écouter là le Stabat Mater, alors interprété par donc The English Concert et Trevor Pinnock avec des solistes Catherine Robin, Patricia Rosario, Anthony Rolf Johnson et Cornelius Hauptmann.
Thank you.
Voilà, eh bien, c'était le Stabat Mater de Joseph Haydn. C'est une des œuvres de jeunesse relativement, c'est l'époque où Haydn est parti pour se mettre au service de la famille Esterházy, où il a pris le poste de... Enfin, il a remplacé son prédécesseur qui était chef de la musique et qui est parti à la retraite ou qui était malade. Et voilà. Donc c'est une de ses premières œuvres et c'est quand même extrêmement beau. C'est une œuvre superbe. Alors, autre atmosphère assez différente, très connue aussi, c'est Vivaldi. Alors, je crois que tout le monde le sait, mais tant pis, j'ai plaisir à le répéter. Vivaldi avait un des plus beaux postes dont on puisse rêver. Il était chargé de faire de la musique aux jeunes orphelines de l'Ospedale della Pietà à Venise. Et alors, il leur écrivait des concertos, des messes, etc. Il les faisait répéter. Et pas mal d'entre elles sont devenues par la suite des musiciennes professionnelles et ont fait leur carrière. Voilà, quand on a eu Vivaldi comme maître, on n'est pas trop mauvaise, sans doute. Bien, alors là, je vous propose d'écouter un extrait d'un concerto do majeur pour violon, interprété par Giuliano Carmignola au violon baroque et l'orchestre baroque de Venise, dirigé par Andrea Marcone, qui dirige et qui joue du clavecin. Thank you. Voilà, alors un violon baroque, quelle est la caractéristique du violon baroque? Alors d'abord, il n'y a pas de mentonnière, donc on le tient directement sous le menton. Ce sont des cordes en boyau et elles sont moins tendues, la tension est moins grande sur l'instrument lui-même. Voilà, donc ça change un petit peu et puis en même temps on fait peu ou pas du tout de vibrato. Ça a été très à la mode, Arnoncourt, Gustave Léonard, etc. avaient mis le violon baroque à la mode, et puis l'ensemble baroque de Limoges aussi, du temps qu'il existait un ensemble baroque de Limoges. Voilà, et ça commence à faire un moment. Bien, alors, premier livre de cette émission, Les Perles de Michel Audiard. Alors, je dois dire que les auteurs, qui sont Frédéric Pouillet et Suzy Jouffa, ils ne se sont pas énormément fatigués parce qu'ils ont pris des extraits d'entretien, des extraits de et aussi des dialogues de films. Alors des films, il y en a qu'on connaît, puis il y en a qu'on connaît pas du tout. Alors par exemple, est-ce que vous connaissez Mission à Tanger? Pas sûr. Et on lit cette belle phrase quand même qui dit. La guerre est une affaire de militaires, elle ne concerne strictement que les militaires, et quand on voit la gueule de certains militaires, ça ne donne pas envie de faire le zouave. Voilà. Et puis, il nous dit aussi, alors, il parle un peu de sa vie, c'est quelqu'un qui vient de milieu tout à fait modeste, et à propos de sa mère, il dit... Elle m'inspire une immense indifférence. Si j'avais été malheureux, si elle m'avait, par exemple, foutu à l'assistance publique, je verrais peut-être les choses différemment. Ce n'est pas le cas. Les gens qui m'ont élevé étaient adorables, plus tolérants que les vrais parents. Voilà, car il a eu une enfance difficile. Et, alors, est-ce que ça explique ce qu'il a fait plus tard? Ben non, mais enfin, ça a dû y contribuer. Alors, on nous explique un peu quelle a été la carrière de Michel Audiard, donc qui a commencé... par des toutes petites choses. Il était coursier à vélo, il portait les journaux, il portait enfin tout ce qu'on lui demandait. Il était coursier, voilà, il faisait des courses à vélo, et puis il a disputé également des compétitions. Alors il y avait ce qui a laissé un souvenir épouvantable, à savoir le Veldiv, le vélodrome d'hiver qui était à Paris et où se déroulaient des compétitions de cyclisme sur piste. Je crois que ça n'existe plus, ou très très peu, les compétitions sur piste. Maintenant, on fait ça sur route. Donc voilà ce qu'a fait Michel Audiard. Et puis, un peu par hasard, il est entré dans le cinéma et il est devenu dialoguiste. Et alors, il dit des choses intéressantes, voire même, je dirais presque profondes, sur ses relations avec les acteurs, et expliquant qu'il écrit pour un acteur précis, et que dans les mots qu'il emploie, dans les phrases, comme il les aligne, eh bien, c'est la façon d'articuler de tel ou tel acteur. Par exemple, Gabin, il dit « j'écris pour Gabin », parce que sa façon de parler colle bien avec la phrase. Même chose pour Lino Ventura, même chose pour beaucoup d'autres. Et puis alors, il y a aussi, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans ce livre, c'est des extraits de films. Alors évidemment, il y a les Barbouzes, les Tontons Flingueurs, etc. Et puis alors des films comme Camp. Alors il reconnaît lui-même que il en a tourné qui était d'une qualité moyenne, même beaucoup, qui était d'une qualité moyenne, et il y en a dont on a peu entendu parler. Par exemple, est-ce que on connaît bien Quand passent les faisans? Pas vraiment. Mais alors, ça permet de lire des choses qui étaient, qui sont d'une certaine beauté. Par exemple, celle-ci, la psychologie, je n'en connais qu'une, c'est d'être le premier à défourailler. Et son interlocuteur lui répond, c'est peut-être un peu sommaire, mais efficace. Voilà. Et puis alors, il y a aussi cette belle phrase, si vous vous souvenez, et quand Lino Ventura, Francis Blanche, et puis je ne me rappelle plus le nom de l'acteur qui joue le porte-flingue, un acteur italien, ils arrivent sur la péniche des Wolfoni, il y a un marin qui leur demande ce qu'ils viennent faire là. Lino Ventura lui balance un énorme coup de poing qui l'envoie dans la flotte. Et Francis Blanche qui dit « C'est curieux chez les marins, cette manie de faire des phrases. » Voilà, il y a quelque chose comme ça, un peu surréaliste. Et alors, il y a le célèbre Gelglave Vengeur et le bras séculier. C'est Bernard Blier qui parle à propos de la venue de Françoise Rosé dans « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». Il dit « Attention, Gelglave Vengeur et le bras séculier, l'aigle va fondre sur la vieille buse. » Et il y a un des hommes de main qui dit « C'est un peu chouette comme métaphore, non ?» L'autre lui dit « C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. » L'autre dit « Fais pas chier. » Il dit « Ça, c'est une métaphore. » Voilà. Ce qui est d'ailleurs, d'un point de vue purement stylistique, assez faux. Mais enfin, toujours sympathique. Voilà. Bon. On lit ça avec plaisir. Alors, au hasard des pages, j'en trouve quelques-unes. Alors, dans Les Barbouzes, c'est Mireille d'Arc. Et Mireille d'Arc qui débarque et qui dit « Vous savez, quand un monsieur inconnu ramène chez vous votre mari mort, dynamite la salle de bain et jette les visiteurs par la fenêtre, on prend l'habitude de ne plus s'étonner de grand-chose. » Voilà. Mais alors, il y a aussi d'autres maximes. Par exemple, celle-ci, « Les têtes d'assassins, ça se reconnaît qu'une fois dans le panier. » Et encore pas toujours. Voilà, à l'époque, on guillotinait les assassins. Voilà, donc beaucoup de choses agréables. Allez, pour terminer, une petite dernière. Non mais, t'as déjà vu ça ? En pleine paix, il chante et puis craque un bourre-pif. Il est complètement fou ce mec, mais moi les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère, je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puze. Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Alors voilà, c'est un livre agréable à lire. Je pense, par exemple, avant de s'endormir, on lit quelques pages, on picore quelques phrases, puis ça permet de se remémorer des phrases qui sont devenues presque proverbiales dans la langue française, comme, vous savez, j'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner, mais faut avouer que c'est plutôt une boisson d'homme. Voilà, ça, c'est aussi dans les Tontons Flingueurs, à propos de la boisson, de l'alcool qu'ils ont sorti des placards et qu'on appelle le vitriol. Voilà, donc c'est aux éditions leduc.com, éditeur peu connu, mais voilà, qui existe, et une collection d'humour. Alors, il y a les Perles de Michel Audiard, je crois qu'il y en a d'autres gens un peu célèbres, voilà, dont ils ont trouvé un filon. Et c'est toujours agréable à lire et éventuellement à offrir. Voilà, eh bien vous venez d'entendre deux extraits de Joaquin Turina, alors 1882-1949. C'est un musicien donc relativement contemporain. Cette belle école espagnole de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Il y avait Joaquim Turina, il y avait Enrique Granados, il y avait Federico Mompao. Voilà, il y a eu une belle école de piano, particulièrement en Catalogne. Alors, il a écrit beaucoup de choses, et en particulier des pièces qui évoquent des endroits, par exemple, là nous avons entendu devant la tour de Clavero à Salamanque, et puis une vieille église à Logroño. Alors il y a les jardins de l'Alhambra, il y a Cordo en fête, chanson dans la nuit, etc., etc. C'est plus trop à la mode ce genre de choses. On n'écrit plus tellement de cette musique qui prétend évoquer des paysages ou des événements. Ça s'est beaucoup fait au début du XXe siècle. Et puis avant, c'est de la musique tonale, et vous l'avez peut-être remarqué, ça ressemble un peu à du Debussy. Voilà. Donc, Joaquim Turina, à découvrir, on en réécoutera peut-être d'autres pièces plus tard. Alors là, on change complètement d'atmosphère et je vous propose d'écouter quelques extraits de L'Actus Tragicus de Jean-Sébastien Bach. Alors c'est une cantate. Bach devait écrire une cantate tous les dimanches. Il devait la faire répéter et donc la diriger. Donc il avait un travail absolument terrible. Il en a écrit plus de 300 en tout cas. Certaines célèbres, d'autres moins. L'Actus Tragicus est quand même parmi les plus célèbres. Et c'est une cantate du début de Bach à Leipzig. C'est le BWV 106, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc ce sont des textes pieux avec chœur soliste et quelques sortes de récitatifs. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Le règne de Dieu est le meilleur de tous, c'est en lui que nous avons la vie et le mouvement aussi longtemps qu'il le veut, etc., etc. Voilà, eh bien, je vous propose d'écouter donc quelques extraits de ce Actus Tragicus, donc cantate de Bach, avec le Cantus Köln, donc de Cologne, dirigé par Konrad Jung-Ennel. Voilà, et bien c'était quelques extraits de l'Actus Tragicus de Jean-Sébastien Bach. Un livre qui est, j'allais dire, presque dans le sujet, c'est « En avant, route » de Alix de Saint-André. Alors d'abord, la formule « En avant, route » est de Rimbaud. Elle le dit, elle cite cette formule quelque part dans le livre et elle la rend à son auteur. Elle lit comme dirait Rimbaud. Voilà, alors c'est le récit de... Alors, elle a compilé deux, même peut-être trois pèlerinages à Compostelle. Alors, elle explique qu'elle part pour Compostelle. Alors, c'est une aristocrate qui était la fille du chef, du grand maître des écuries de Saint-Cyr ou de quelque chose comme ça. Et donc... elle a eu un épisode alcoolique très pénible. Et, enfin, bon, elle a eu des ennuis. Elle travaillait à Canal+ assez longtemps. Elle écrit ce livre pour raconter en quelque sorte son pèlerinage à Compostelle. Alors c'est intéressant parce que d'abord, elle ne dissimule pas tous les inconvénients, les petits et grands, du genre mal aux pieds, mal aux jambes. Alors, elle explique qu'elle fait 20 km par jour. Et alors, elle explique aussi le côté extraordinaire et très surprenant qu'il y a de partir de chez soi. Elle habite à Saumur et... Elle a son sac, alors elle nous explique comment elle a fait son sac, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd. Et elle part de chez elle, elle part à pied, comme si elle allait prendre le bus, mais pas du tout. Et donc elle va aller jusqu'à Compostelle, c'est très très loin, ça fait, je ne sais pas, genre 700 bornes. Et alors elle explique comment elle a décidé de faire 20 km par jour, avec les beaux passages, les endroits charmants, et puis les endroits affreux. Elle explique en particulier, les entrées dans les villes sont déprimantes et atroces. Elle dépeint aussi ses compagnons de voyage, parce qu'alors, on voyage souvent par petits groupes, des gens qu'on rencontre comme ça, et puis on fait un bout de route avec eux, un bout de route un peu long ou pas, suivant les affinités. Alors elle raconte les gens les plus divers. Il y a des Allemands, il y a un Argentin, il y a une femme qui ne croit pas du tout en Dieu, mais qui fait le pèlerinage quand même. Parce que c'est une espèce d'expérience psychologique, personnelle, voilà. Et donc, elle raconte tout ça. Ça donne... Alors, les pèlerins ont ce qu'ils appellent une crédence, c'est-à-dire c'est une sorte de document, et ils le font tamponner à un certain nombre d'auberges là où ils vont. Et donc, il y a toujours quelqu'un, une sorte de délégué, alors c'est le curé du coin ou quelqu'un d'autre, qui leur tamponne leur crédence pour dire, ben voilà... Donc, Alix de Saint-André est passé à tel endroit, à tel jour, et voilà. Donc, c'est une sorte de passeport. Alors, elle nous explique aussi qu'il y a des livres, il y a même des sites internet et des gens qui ont déjà fait le pèlerinage de Compostelle. Alors, attention, le vrai, c'est-à-dire on part et on le fait, et ça dure un mois et demi, deux mois. Alors, il y en a qui le font par petits morceaux. Alors, ils font une année, ils font 80 km, et puis l'année d'après, etc. Alors, ça peut leur prendre des années, des années et des années. Et donc, c'est une espèce de récit tout à fait sympathique, assez humoristique, avec de bonnes surprises et de mauvaises surprises. Quelquefois, elles trouvent une auberge sympa. Mais alors, ils ont des règles entre eux. Par exemple, elle cède une fois, elle va dans un hôtel parce qu'elle en a marre. Alors, parce qu'il y a des espèces d'auberges, de refuges, de relais qui sont destinés aux pèlerins de Compostelle. Mais évidemment, ce sont des dortoirs avec des lits à étages, des dortoirs avec des pieds qui puent, des gens qui ronflent, etc. Ça rend le voyage assez pénible. Et alors, elle raconte qu'une fois ou deux, elle a cédé et elle est allée, elle a pris une chambre d'hôtel pour pouvoir avoir un bain chaud, un luxe inouï. Et puis alors, elle explique aussi la crème qu'il faut acheter pour les pieds, les chaussures, enfin bref. Tout ça est à la fois pratique et un peu spirituel et un peu humoristique et finalement très sympa. Et elle confirme l'image qu'on avait pu avoir d'elle quand elle bossait à Canal+, c'est-à-dire quelqu'un d'original mais de très sympathique. Voilà, c'est son sixième livre, elle en a écrit depuis, et ben j'espère qu'elle en écrira d'autres. Donc ça s'appelle En avant route, c'est de Alix de Saint-André et c'est aux éditions Gallimard. Alors maintenant je vous propose d'écouter quelques pièces de viol de Monsieur de Sainte-Colombe. Vous avez peut-être vu, ou peut-être pas, mais c'est un film qui est déjà un peu ancien, un film qui s'appelle « Tous les matins du monde » et qui montre le début de la carrière, et enfin un grand morceau de la carrière de Marin Marais, qui était le violiste, donc un grand virtuose de la viole de gambe sous Louis XIV. Et ce film nous racontait, c'est après un texte de Pascal Quignard, nous raconter comment il avait fait son apprentissage et comment il avait rencontré Monsieur de Sainte-Colombe, lui aussi violiste virtuose, mais tempérament difficile et ombrageux, proche des protestants, proche des jansénistes, quelqu'un de pas rigolo, très spirituel, et donc qui a laissé des recueils pour la viole. Alors je vous propose d'écouter quelques-uns de ces recueils de viol de gambe, interprété par Paolo Pandolfo, donc à la viol de gambe. Thank you. Voilà, eh bien, une pièce de viol de Monsieur de Sainte-Colombe, tirée d'un recueil qui s'appelle tout simplement Pièce de viol, interprétée par Paolo Pandolfino. C'est un très grand virtuose de la viole de gambe. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur la viole de gambe, la famille des viols, etc., qui a disparu de l'orchestre moderne, à part la contrebasse, qui est le dernier survivant de toute cette famille des viols de gambe. Bon, nous en reparlerons sans doute une autre émission. En attendant, ben, je vous dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine et restez sur RTF sur 95,4 MHz. Salut.